Off the Record.
Le label préféré de tous tes labels préférés. C'est peut-être ça la bonne définition pour résumer le label à l'honneur dans ce nouvel épisode d'Off the Record, la série podcast proposée par la Fédération des labels indépendants francophones.
Off the Record.
Il est ici question de Kram Disc, l'un des plus vieux labels indépendants de Belgique, créé au début des années 80, dans ce qui n'était pas encore la capitale de l'Europe. Et pourtant, des Honeymoon Killers à Took the Moon en passant par la mythique collection Made to Measures, sans oublier Konono Premier, Crammed est certainement l'une des maisons de disques à l'origine de cette grande sono mondiale qui continue d'émettre 45 ans après. Pour nous raconter cette grande aventure discographique, j'ai le plaisir de recevoir Marc Hollander, fondateur de Crammed et musicien du groupe belge culte Aksak Maboul. C'est parti pour un grand voyage temporel dans l'histoire d'un label qui continue encore de tourner, comme les disques dont il sera ici question. Bonjour Marc Hollander.
Bonjour Thomas.
Merci de nous accorder un moment pour revenir sur Crammed, que tu as fondé voilà 43 ans, si le compte
c'est
bon.
C'est exact.
On va revenir un petit peu sur l'histoire du label, les pourquoi, les comment et les encore. Est-ce que ça te va si on dit qu'aujourd'hui vous êtes l'un des labels indépendants les plus anciens de Belgique, si ce n'est le plus ancien ?
Je sais pas, oui, moi je suis content d'avoir fait ça et de continuer, que je suis plutôt axé sur le présent et le futur. On n'est pas en train de se gargariser des riches heures de l'histoire de Crammed, quoi. Mais l'histoire existe et elle est aussi... polymorphe, hein, comme tu sais, on est parti dans toutes sortes de directions musicales, c'est ce qui fait que je ne me suis pas embêté aussi. C'est...
Voilà. Des artistes emblématiques du label, pour ceux qui ne connaîtraient pas Crammed, ça va de Minimal Compact à Took the Moon, Staff Benabili, Konono, aujourd'hui une nouvelle scène avec Acid Arabe, Aqua Serge, donc des groupes plutôt français, J'en Passe et des meilleurs, Gilberto.
Bel Gilberto, oui. Le succès du label à ce jour qui ne sera jamais dépassé, je crois, vu que les disques. Enfin, on ne peut plus compter de la même façon qu'avant, quoi. Mais 1 million d'albums, oui, c'était un chiffre rond assez satisfaisant, quoi.
Ouais. La liste des artistes Crammed serait trop longue à énumérer.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, en fait, pour peut-être commencer sur l'historique ou l'ADN, comme disent les grands chefs marketing aujourd'hui, de Crammed, est-ce que finalement c'est le fait que tu aies grandi dans les années 60 avec. Aux confluences de plein de cultures qui expliquent peut-être en partie le fait qu'on ne puisse pas catégoriser Crammed. Crammed n'est pas un label de world music, n'est pas un label de hard rock, ouais. Mais c'est un peu tout ça à la fois en fait.
Quand on grandit, quand on est ado dans les années 60 à Bruxelles, il n'y a pas de culture musicale dominante. On fait son miel de tout ce qui nous parvient au-delà des frontières, quoi. Donc j'ai grandi au milieu de... une confluence comme ça de choses, quoi. La musique anglo-saxonne, le classique, très vite je me suis intéressé au free jazz qui se passait à l'époque, l'évolution du rock depuis l'espèce de blues rock anglais que j'aimais beaucoup quand j'avais 15-16 ans, puis c'est parti dans le rock psychédélique, des choses plus expérimentales, bon, toutes ces choses-là, et puis les musiques extra-européennes aussi qu'on n'appelait pas encore musique du monde. Donc tout ça, oui, en tant que fan, j'écoutais plein de choses. En tant que musicien, je m'inspirais de plein de choses. Crammed est une extension de mon projet musical Aksak Maboul, dans lequel je mélangeais tout ce qui me tombait sous la main, tout ce que j'aimais bien, disons, et tout ce qui... Voilà. J'essayais d'imiter des choses, mais je le faisais mal à ma façon, donc peut-être qu'il y avait un truc plus personnel qui en ressortait, heureusement.
À la fin des années 70, lorsque tu es encore uniquement musicien, est-ce que tu imagines que tu pourrais un jour devenir patron de label et producteur ?
Non, pas du tout. Au moment de faire mon premier album, On se danse pour combattre la migraine, sur le micro-label éphémère de Marc Moulin, non, j'imagine pas du tout ça, mais c'est les choses, diverses choses m'y ont conduit. D'une part, le label de Moulin n'existait pas vraiment, c'était un truc vraiment éphémère, et j'ai dû, moi, pour faire vivre le disque, aller acheter des disques au comptoir du distributeur, et les expédier, envoyer des disques à des musiciens que j'admirais dans différents pays. Puis petit à petit, je me suis retrouvé à faire des échanges de disques, à distribuer des disques d'autres petits groupes indépendants qui émergeaient à cette époque-là. Il y avait peu de labels indépendants, hein, c'est juste avant ou juste au tout début de l'explosion des labels indépendants en Angleterre. Donc ça m'a conduit à toucher des boîtes de disques, à les transporter, à faire des échanges comme ça. Avec, ouais, on distribuait par exemple, je ne sais pas, les tout premiers Tuxedo Mule. J'avais beaucoup de mal et j'ai peut-être toujours beaucoup de mal à me répéter, à refaire la même chose. J'aime bien que les choses évoluent et je trouve ça ennuyeux ou je sais pas, je me sens mal à exploiter une formule comme ça. Donc j'avais un peu une espèce d'angoisse de la page blanche. Et en même temps, comme Aksak Maboul réunissait des musiciens petit à petit, j'ai commencé tout seul, puis des gens sont venus s'ajouter, puis il y a des invités différents à chaque phase. Je me suis dit, peut-être ça serait amusant de faire ça à l'échelle d'un tout petit label, quoi, de travailler avec d'autres gens, de susciter des rencontres comme ça.
On a souvent tendance, quand on revisite le passé des labels, même le passé en général, à sublimer ce qui a pu se passer ou à embellir des réalités. C'est quoi l'état de la Belgique au début des années 80 d'un point de vue discographique, d'un point de vue industriel pour la musique? Qu'est-ce qu'il y a en fait?
Laisse-moi me souvenir. écoute, il n'y a pas vraiment de label indépendant, je crois. Enfin, on était, je pense, un des premiers. Il devait y en avoir d'autres. L'ancêtre de Piass, à savoir le Sandwich, le magasin disque Casablanca Moon et le label Sandwich, qui avait été monté par Michel Lambeau, ça commence juste un peu après. D'ailleurs, les premiers trucs qu'il a distribués, c'est un des disques de Kram de...
Dans les premières années de Kramd, à quel moment et sur quel premier disque tu as l'impression que vous allez devenir un label, c'est-à-dire au sens les premiers succès, le moment où en fait vous commencez à avoir les moyens d'exister de façon indépendante et à vous dire ah, ce sera peut-être plus qu'un moment.
Bah, assez vite en fait, et puis bon, très vite j'ai signé, comme on dit, des artistes venant d'un peu partout et un peu dans des styles différents. Les premières signatures, il y a Minimal Compact, qui est rock, post-new wave, influence un peu moyen-orientale. Mais il y a aussi Zezubikai, qui est une expérience presque de laboratoire électronique et congolaise. Il y a un certain nombre de trucs comme ça, et c'est toujours avec l'œil sur l'international, comme on dit dans les pays où... On pense comme ça, mais oui, j'ai jamais pensé qu'on sortait des disques pour s'adresser au public belge ou pour travailler qu'avec des artistes belges. C'est, bon, comme tu disais, ça vient de voilà des choses que j'ai absorbées et qui m'ont intéressé, qui sont un peu au-delà des frontières. Quoi. Ouais, les premiers succès, c'est sans doute l'album des Tueurs de la Lune de Miel, qui est des Honeymoon Killers, qui est un groupe dans lequel je jouais aussi, qui a assez bien marché très vite. C'est en 81, des premiers singles Route Nationale 7, qui est une espèce de tube radio et télé, même en France. Et en même temps, le groupe se retrouve à la une du NME en Angleterre, à faire des concerts à la Hacienda à Manchester. C'est une espèce de dualité comme ça.
De toute la route de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit. En auto ou en auto-stop, vers le rivage du midi. Sept, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence. Qui fait Paris un petit faubourg de Valence. Et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence.
Michel Vettier remplit mon cœur sa lucidité. Chasse les écoles et les acidités qui font le malheur à la quantité. Tout excité,
on chante en fête. Les oliviers semblaient ma petite Lisette. L'amour et la joyeux qui fait risette. On est heureux national 7.
Je pense à une citation de Andrew Loogoldam, donc manager historique des Stones, jusqu'au moment où il n'a plus été, qui souvent répète que la chance n'existe pas, la chance c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a besoin de toi. Intéressant comme, comme remarque. Tu attribues à quoi le succès rapide en fait de Crammed ?
Il y a eu des gens tout de suite qui sont intéressés à ce que faisait Crammed dans beaucoup de pays, mais ils étaient peu nombreux, mais dans de nombreux pays. Quoi. Tu vois, 12 ici, 45 là-bas. Et voilà, c'est une façon de fonctionner qui me plaisait bien. Quoi. Essayer de toujours essayer de trouver, de contacter des médias, des distributeurs, et se construire en réseau de distribution vraiment indépendant, c'est-à-dire ne pas dépendre. Beaucoup de labels indépendants passent par un distributeur qui exporte en Angleterre, même c'est typique. Là, comme il y a beaucoup de flux de production. Ça a toujours été comme ça. Tous les labels indépendants passent par des exportateurs ou des distributeurs qui se chargent de l'exploitation internationale. Nous, on n'a jamais fait ça ou jamais pu faire ça parce que la production est peut-être trop hybride ou trop explosée pour rentrer dans une case. Et puis, on est dans un pays qui est pas, d'où il n'y a pas beaucoup de musique qui part. Donc, on n'est pas anglais, on n'est pas français, bien que la France a eu du mal à exporter ses productions pendant longtemps. Et ce n'est pas encore gagné, je pense. Donc, on est allé trouver le distributeur. Voilà, dans 10-15 pays, petits, moyens, parfois plus grands, qui a envie de bosser avec nous. Et ça a été la clé de notre survie, ça. Et on était une petite équipe, on était genre 3, puis 4. Non, mais j'ai dormi, hein, quand même.
Mais comment on arrive, en fait, dans ces années 80, sans Internet, je le rappelle, avec aujourd'hui des choses qu'on a oubliées. Il y a eu un moment où on appelait les gens sur un téléphone filaire, quand même. Hein. Comment on arrive, alors qu'on n'a pas encore l'expertise, l'expérience, à bien s'entourer pour justement faire en sorte qu'un label tienne?
Écoute, c'est vraiment tout ça est complètement intuitif. Hein. Je ne me suis pas entouré de gens qui avaient plus de compétences que moi, plutôt moins. Tu vois, il y a une copine qui est devenue attachée de presse à tiers-temps pour la Belgique. Et bon, elle dirige la boîte avec moi depuis lors. Quoi, tu vois. Un autre copain qui n'était pas du tout dans la musique. M'a rejoint aussi. Moi, j'avais aucune expérience en matière de gestion, rien. Quoi. J'ai pas fait d'études de compta, de gestion, tout ça. Donc, j'ai appris sur le tas. On a tous appris sur le tas. Quoi.
Mmh.
L'une des particularités de Crammed, entre autres, hein, il y en a pas mal, mais c'est cette logique de sous-division, enfin en tout cas de sous-label.
Ouais.
Dès 84, il y a cette première collection Metal Major. 89, il y a SSR.
Ouais.
Donc tu peux peut-être nous expliquer les initiales, sans pleurer, sans reproche.
Oui, compilation numérique qu'on a sortie il y a une quinzaine d'années. SSR signifie Sex and the Single Rabbit sur la pochette, qui est une paraphrase d'un best-seller américain des années 60, je crois.
Et c'est pas fini, parce que tu continues encore dans les années 90 avec d'autres, d'autres sous-labels.
Oui, Cram World... Zirigi Boom pour les artistes brésiliens. La logique, c'est justement d'essayer de combattre un peu la confusion qui s'emparait des fans, peut-être pas les fans, parce que les fans suivent ce qui leur plaît, mais les médias, les détaillants, les distributeurs, parce que cette espèce de foutoir où les disques sont dans plusieurs genres et les gens n'aiment pas toujours ça. Maintenant, c'est moins le cas, mais à l'époque... Je me suis dit un peu bêtement, peut-être qu'il faut faire des sous-collections comme ça pour que les gens sachent ce à quoi s'attendre. Quoi.
Ranger la chambre, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, Made to Measure, c'était. J'ai essayé de ranger là-dedans tout ce qui était plus instrumental, plus expérimental, de musique ambient, un peu à la limite du classique. Mais à l'intérieur de cette division, la diversité recommençait à bourgeonner très vite, parce que les disques ne se ressemblent pas. Et voilà. Après. SSR, donc quand la vague qu'on appelait House ou Acid House, un peu stupidement, anglaise notamment, et puis la techno de Detroit est arrivée fin des années 80, j'ai trouvé ça super, moi ça me parlait complètement, c'était un mélange de choses qui me plaisaient déjà, hein. C'est, je sais pas, James Brown plus boîte à rythme plus Kraftwerk plus accord un peu jazz, parfois j'ai eu envie de me lancer là-dedans. On a pris un autre nom de label parce que c'était, voilà, on raconte souvent que des journalistes français, par exemple, de rock pointu, étaient scandalisés qu'on fasse ça, quoi. Ils disaient, mais vous êtes fous, vous allez sortir, c'est de la merde comme ça. Mais...
C'était associé à une trahison artistique
Oui, c'est ça, oui, pour des gens qui, après, évidemment, sont partis dans ces directions aussi parce que ce mouvement s'est pas arrêté, c'est pas un gimmick, quoi. Je pense que l'époque, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a arrêté de ranger les trucs dans des sous-labels. Bon, la collection Made to Measure, qui est un peu historique, comme ça, on essaye de la ressusciter, tant bien que mal, parce que voilà, elle a une histoire, un prestige, mais une cohérence. Mais oui, tout ce qui est pseudo-world, déjà ce terme est hyper sujet à débat. Hein, mais... Et puis il y a beaucoup d'artistes post-genre et post-nationaux, transculturels, pour employer des termes, des mots valises comme ça, qui ont émergé dans les années 2000. Hein. C'était chouette de voir des groupes, notamment des groupes indépendants américains, genre Akron Family, avec lesquels on a travaillé, ou d'autres de cette scène, complètement enjamber les genres et passer du bluegrass très idiomatique à de la musique psychédélique, à des boîtes à rythme. Ça me convenait bien, quoi. Donc je me suis dit, il y a un public qui... Et c'est le public post-internet aussi, hein, qui va fouiner partout, qui écoute des choses très différentes et que ça choque pas d'avoir... qui pioche dans plusieurs genres, quoi. C'est assez bizarre parce que depuis quelques années, il y a à la fois une spécialisation des sous-genres, enfin il y a une prolifération de sous-genres hyper précis, mais en même temps... Il y a plus de liberté, je pense, des artistes même un peu mainstream maintenant qui incorporent beaucoup d'influence. Quoi.
Est-ce que c'est cette diversité, on va dire, mot très actuel, qui vous a permis d'échapper au carcan des modes ?
Ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à ce moment, un genre ou un genre d'artiste marche moins bien ou ça se passe moins bien dans tel pays, mais il y a autre chose qui prend le relais et donc on n'a jamais été victime de... comme des labels qui se sont vraiment concentrés et j'ai envié ça, j'aurais voulu à un moment donné avoir un label qui a vraiment une image, un style reconnaissable, mais je suis infoutu de le faire, quoi.
Mais tu crois pas que tu te seras emmerdé là-dedans ?
Oui, absolument, c'est ce que je disais il y a quelques instants, mais en même temps, bon, penser deux choses à la fois, quoi, tu peux dire. Même les labels électroniques, il y a une diversité incroyable parce que c'est pas construit autour de deux, trois producteurs, on a rencontré des gens un peu partout, il y a eu de la house, de la techno, de la drum and bass, du down tempo, c'est pas des manières, quoi. Normalement, tu fais un truc, quoi. Mais ça nous a permis, effectivement, même si c'était pas délibéré, ça nous a permis de parfois de survivre ou de partir sur autre chose, ou de partir parfois trop tôt sur autre chose. En musique électronique, par exemple, on a sorti, je sais pas, 60-70 albums durant les années 90. Des compilations, des albums d'artistes, beaucoup de maxi, et puis à un moment donné, on s'est un peu épuisé là-dedans, même économiquement, et puis bon, je trouvais ça moins intéressant, on est parti sur autre chose.
On parlait en début d'émission de Bebel Gilberto, ce serait intéressant qu'on en fasse une sorte de cas game changer, c'est-à-dire de comprendre comment ça a impacté le label, d'avoir ce que tout label rêve d'avoir, à savoir un énorme succès commercial. Comment ce succès arrive? Enfin, pourquoi? Et comment vous le gérez? Et comment ça se passe après?
Donc, comment ça arrive? C'est encore une fois la chance, le hasard. Hein. Toute cette filière brésilienne, c'est un Brésilien de New York, enfin, brésilo-new-yorkais, qui m'envoie une cassette à l'époque pour, en proposant de faire une compile de nouveaux artistes brésiliens que je connaissais pas trop. Je me dis, ah, il y a pas mal de trucs chouettes. On a commencé par faire cette compilation qui s'appelait Brasil 2000. C'était en 98, je crois. Et puis, là, je me dis, mais il y a plein d'artistes qu'on devrait peut-être signer là-dedans. Donc, on monte une collection qui s'appelle Zirigi Boom. On découvre des artistes qui étaient peut-être connus là-bas. Mais Bebel Gilberto, cas particulier, donc c'est la fille de João Gilberto, co-inventeur de la bossa nova, la nièce de Chico Buarque. Enfin, c'est vraiment la famille royale de la musique. Mais cette fille a grandi sous les spotlights, notamment de la presse à scandale. Toutes les conneries qu'elle faisait, elle en faisait quand elle avait 18 ans, elle était dans les feuilles de chou la semaine suivante. Donc elle est partie vivre à New York. Et elle a un peu végété comme ça, elle faisait des petits concerts. Elle essayait avec ce gars, Beko Dranov, avec qui on a monté cette collection, elle essayait de signer sur des labels américains et personne n'en voulait, quoi. Donc comme on commençait à faire ça, il m'en a parlé, évidemment. Je trouvais qu'elle avait une super voix, qu'il y avait voilà, une super histoire. Et on s'est lancé à la production de cet album. Et cet album est arrivé au bon moment, c'était le bon mélange. Donc on l'a fait travailler avec Suba, qui était un musicien producteur serbe qui s'était parti s'installer au Brésil, qui donc est arrivé tout à fait à point nommé. C'est le truc qui collait avec l'air du temps. Et donc, quand ce disque est sorti...
C'est le disque qui arrive au bon moment, ouais, au bon endroit.
Ouais. Mais après, pour le faire distribuer, ça n'a pas été immédiat. Donc, on l'a sorti via notre réseau de distributeurs, avec nos petits attachés de presse ou les distributeurs qui font la promo de ça. Mais on s'est dit, en France, ça vaut la peine de chercher une licence. Et c'est un tout petit division de Warner Jazz. C'est Pascal Bussy à qui on l'a proposé. Il a dit « Ah oui, c'est sympa. » Enfin, tu vois, il savait pas, nous non plus, pour être honnête, la dimension que ça allait prendre, quoi. Et en France, ça a vraiment pris. Et ce disque a vendu 100 000 exemplaires en France assez vite, quoi. Suite à ça, un directeur artistique français de Warner UK l'a entendu pendant ses vacances à Bordeaux, d'où il est originaire. Il s'est dit « Ah oui, quand même, en Angleterre, ça pourrait marcher. » Il nous a contactés, il est venu nous voir à Bruxelles. Et ça l'intéressait beaucoup. Et il a eu raison, parce que ça a marché aussi bien en Angleterre. Par contre, ce qu'on a pris le soin de faire, c'est de ne pas inclure ça dans le même deal avec Warner. Donc là, on a fait des deals vraiment bien étanches et bien séparés.
Total, 1 million d'albums vendus.
Voilà, une autre licence avec une autre major au Brésil. Et voilà, au total, mais 1 million d'albums vendus, c'est énormément de boulot. Alors là, quand tu parles de pas dormir, là, on n'a vraiment pas dormi. Ça a mis 2-3 ans avant d'en arriver là. On n'a pas fait grand-chose d'autre pendant ce temps-là. Donc on ne s'est pas non plus incroyablement enrichi, si tu veux, parce que ça coûtait beaucoup d'argent aussi. L'artiste était un peu exigeante, il a fallu soutenir les tournées.
Tu sors de cette expérience incroyable, dans quel état?
Fatigué, au deuxième album, mais content quand même. Je veux dire, ça change aussi, c'est une expérience différente. On apprend des choses, c'est une autre façon de fonctionner. Peut-être qu'après, on est content de refaire des choses plus petites, mais on n'est pas contre revivre ça une autre fois. Bon. On avait eu un premier succès un peu moins avec le premier album de Zapama qui avait quand même, c'était un peu le même principe. On a eu au bout d'un moment des licences et puis c'était beaucoup de boulot, mais c'était super et c'était encore plus improbable comme musique par rapport à un succès de cette ampleur, quoi.
É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. O que o samba é a tristeza que balance. A tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. De amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba, não. Nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
suis impliqué dans chaque disque qui sort sur Crammed?
Ça varie de beaucoup à pas du tout. Ça dépend des artistes, ça dépend de ce qu'ils font, ça dépend à quel point ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire et une capacité à le faire, quoi. Et une ouverture ou pas à avoir des conseils extérieurs. Il y a des gens qui sont demandeurs, il y en a d'autres qui acceptent, il y en a d'autres qui veulent pas du tout qu'on les emmerde, quoi. Donc ça varie beaucoup. Au début, je produisais ou coproduisais pas mal en studio aussi. Maintenant, c'est pas pareil, il n'y a plus beaucoup de studios, puis non, c'est différent maintenant. Mais je suis appliqué dans tout, évidemment. L'explication du creux, je réfléchissais en même temps, de 2003, c'est qu'on a fait une réédition absurde de 12 albums, donc première parution en CD de 12 albums des années 80. C'était toute une opération comme ça autour de Crammed, comme on en fait rarement, mais donc ça nous a pris pas mal de temps.
Non, la question, c'est de se demander, est-ce que tu te rappelles de chacun des disques qui est sorti de l'usine Crammed?
Bah oui.
400 références, tu arrives à associer un souvenir?
400, bah même 700, même en comptant les EP, les maxi. Oui. Alors après, dans les EP, oui, s'il y a trois trucs électroniques sortis autour d'un album, je me souviens peut-être pas exactement de chacun des titres, si tu veux, quoi, mais je me souviens de tous, oui. C'est chaque fois une histoire aussi. J'ai pas compté combien ça représente d'artistes. C'est pas 400 artistes, évidemment, mais quand même beaucoup. Oui, c'est chaque fois une histoire, une relation qui se passe bien ou parfois moins bien. Oui, comment oublier?
Quelles ont été les différentes crises que vous avez dû traverser, si tant est qu'il y en ait, hein. Peut-être que vous avez traversé, que vous avez réussi à échapper à toutes les balles, mais...
Ben, on a essayé, on est toujours là, donc quelque part, on a réussi à survivre, quoi. Mais c'est sûr que l'arrivée du digital, et notamment du peer-to-peer, piratage, comme on disait à l'époque de Babel Gilberto, puisqu'on en parlait, donc début des années 2000, le physique, c'était genre 80% de nos recettes. Et maintenant, c'est 12%.
Ah oui, le chiffre précis.
Ou 15. Donc et ça a été graduel, quoi. Et c'est vraiment comme une espèce de descente aux enfers. On se dit, enfin, on n'a pas vécu comme ça, mais le physique a vécu une descente aux enfers, dont on se dit chaque fois, bon, ça ira pas plus bas, mais ça peut toujours aller plus bas. Ou alors on se dit, ok, là c'est mort, et c'est toujours pas mort. Donc ça complique un peu les choses, parce qu'on doit continuer, on fait ce qu'on veut, hein, mais on pense que voilà, il faut continuer à la fois à sortir du digital, du physique, du vinyle, du CD, qui survit incroyablement, pas très bien, mais c'est piégeux, quoi, parce que les volumes, bon, le coût des pressages a augmenté, notamment du vinyle, avec le moment de la pandémie, là ça redescend un tout petit peu, mais ça reste très élevé, donc ça se répercute sur le coût de vente en magasin. Les gens n'ont pas d'argent parce que, pour les raisons qu'on connaît, donc c'est pas évident. Donc les pressages, on a beau réduire les quantités chaque fois en se disant on va pas en faire trop, parce qu'on en fait toujours trop en se disant oui, ce disque doit trouver un public, ça va marcher, ça va vendre, mais on parle de 1000, tu vois, pas d'un million là. Hein. On va faire 1000 vinyles et on va les vendre. Ben non, parfois on les vend pas sur des nouveaux artistes.
On sent qu'il y a un affect avec Crammed. Et même pour un label comme Crammed, ouais, qui a 43 ans et qui continue encore à faire ce travail aujourd'hui sur des nouvelles sorties, on en parlera après.
Ouais.
Donc tu es en train de me dire que même à 1000 copies, ça devient compliqué.
Pour des nouveaux artistes qui n'ont pas de base de fans, parce que oui, il y a des gens qui suivent ce qu'on fait, il y a des petits médias, des petites radios, des petits sites dans le monde entier qui sont fans, mais ça veut pas dire que les gens vont embrayer sur un nouvel artiste complètement inconnu, quoi. Et on a vraiment du mal avec les nouvelles signatures. C'est dur pour eux aussi, c'est dur de tourner, c'est dur d'arriver à, pour ceux qui tournent, quoi, faire des concerts qui sont économiquement viables. Et puis le fait que, bon, il y a une génération de gens, mais ça c'est pas notre public, ça le sera peut-être jamais, ou peut-être plus tard, qui préfèrent écouter des trucs de 20 secondes et les mettre sur TikTok pour faire un truc, que de s'intéresser à vraiment à des albums. Le streaming aussi, c'est un peu... il y a des aspects positifs et d'autres qui sont un peu déprimants. Le côté positif, c'est que des gens écoutent notre musique dans des pays où jamais un disque physique ne serait parvenu. Hein. Quand je vois que des gens écoutent, je sais pas nos artistes au Kazakhstan, en Gambie, ou je ne sais pas. Bon, évidemment, ça représente des cacahuètes, mais il y a un truc qui est agréable de se dire qu'on arrive à rayonner comme ça en Amérique latine, par exemple, où jamais on est parvenu, en dehors de Babel Gilberto, des choses comme ça, à sortir des disques physiques là-bas. Là, le streaming permet quand même de rayonner. L'aspect déprimant, c'est que Spotify est quand même leader, et quand on drive par les playlists, on peut avoir un album où il y a un morceau sur une playlist qui a 1 million d'écoutes, mais ça ne se répercute pas du tout sur le reste de l'album. On pourrait se dire, ah, il y a un morceau de... Voilà, je pense à, je ne sais pas, Stubbleman. Il y a un morceau sur une playlist qui fait plus d'un million. Et on se dirait que les gens... Il y a quand même une petite partie de ces gens qui vont avoir la curiosité de cliquer sur le nom de l'artiste pour écouter d'autres morceaux. Ben c'est, les autres, ils sont dans les... Moins de 100 000, quoi.
Que l'histoire a commencé en 80. On est 43 ans plus tard, je vois les prochaines sorties qui sont toujours aussi radicales dans le bon sens du terme, sans concession. Mmh. C'est estampillé Crumb, ça ne dépasse pas d'un poil. Non mais sérieusement, du coup, qu'est-ce qui fait que là où d'autres se sont arrêtés en mi-chemin après avoir peut-être travaillé 5, 10 ans, 15 ans voilà, toi tu continues. Enfin, vous continuez. Mais Crumb, c'est beaucoup toi quand même.
Ouais. Écoute, moi c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Ça me fait toujours marrer. Ça fonctionne toujours plus ou moins, tant bien que mal, donc pourquoi s'arrêter, quoi. Je vais pas prendre une retraite, aller, je sais pas, jouer au poker ou à la pêche, faire du golf, non, c'est certainement pas, quoi.
que la chance pour Crame d'aujourd'hui, c'est d'avoir duré assez longtemps pour avoir ce qu'on appelle un back catalogue, qu'on peut rééditer, ressortir. Oui. Et est-ce que ça compense en soi des plus faibles ventes chez les nouveaux artistes?
Voilà, c'est pas une garantie de succès, hein. C'est des rééditions soignées, trop soignées, on y passe trop de temps. Parfois, il y a le disque de Susan Dame et Richard Horowitz, je sais pas si tu vois ce que c'est un duo new-yorko-persan qui est hyper novateur dans les années 80. On a pris la peine de faire un super livret, je les ai interviewés, je leur ai fait raconter leurs histoires qui sont incroyables, on a trouvé des documents. Bon, le back catalogue aide en digital, c'est là que le streaming aide, c'est que tout est écouté tout le temps, mais pas un petit volume, mais tout est disponible, on ne doit pas represser, rééditer. Ça, de ce point de vue-là, oui. Et du point de vue aussi de ce qu'on appelle les synchros, donc les utilisations dans films, séries, etc. Là, on a un flux constant de petites demandes, parce qu'on a un vaste catalogue et de choses particulières qui ne sont pas facilement remplaçables par des musiques de librairie, comme on dit, ou des musiques un peu au maître, comme ça. Au début, quand on a commencé à faire plus de licences pour des utilisations dans audiovisuel, j'avais l'idée complètement fausse qu'un morceau qui a l'air cinématographique a une chance d'être pris. Mais c'est exactement le contraire, en fait. Quelque chose qui est très cinématique, comme ça, ils ont ça sous la main. Quoi. Mm. Par contre, c'est que Nono numéro 1. Si quelqu'un, par hasard, a envie d'utiliser ça dans un film ou une pub, ça nous est arrivé, une pub Guinness pour toute l'Afrique qui a licencié un remix de Kono numéro 1 par Marc Ernestus, tu vois, qui a le duo Maurizio, donc de techno-dub minimal berlinoise, donc c'est vraiment un truc très minimal. Voilà, campagne quand même assez importante. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. Donc, là, notre catalogue nous aide.
Qu'est-ce que toi, tu vois comme évolution sur les prochaines années pour des gens qui aimeraient monter un label? Est-ce qu'un label demain a encore un intérêt, par exemple? C'est moi, c'est une question que je me pose des fois.
Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai pas de conseils à donner, je sais pas. Il y a des labels qui ont de l'intérêt, mais notre façon de fonctionner, on n'en a pas parlé, mais de plus en plus, ça a été presque du management, c'est-à-dire qu'on s'occupe, on entoure les artistes, on se contente pas de sortir des beaux disques, comme on disait tout à l'heure, mais on accompagne un artiste, on essaye de faire en sorte qu'il existe, si c'est un artiste qui fait des concerts, bah, de lui le connecter avec des agents, des tourneurs dans différents pays, de construire un environnement et de l'accompagner, c'est presque du management. Que d'ailleurs, on s'est mis à revendiquer une petite commission sur les bénéfices des tournées. Avant, on faisait ça, c'était le raisonnement inverse, on se disait les tournées font vendre des disques, donc il faut qu'on aide les artistes à tourner, à exister. On va s'y retrouver, on fait des efforts, on va s'y retrouver sur la vente de disques. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on a des tourneurs qui viennent nous proposer des artistes en espérant qu'on fasse de la promo, qu'on fasse parler de l'artiste pour qu'eux puissent après booker des concerts. Donc le truc s'est inversé. C'est plus du tour support, comme on appelait ça, où c'est le label aide à combler des déficits de tournée. C'est promo support, faut que les tourneurs, ils le font pas, mais les artistes nous reversent une petite partie de leurs bénéfices quand ils en ont, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais donc, des labels qui font ce travail-là, je pense qu'il y a toujours la place pour ça, quoi. Je pense que dans le hip-hop, par exemple, il y a des petites structures de production, bon, qui font pas tout ce qu'on fait, c'est-à-dire aller jusqu'à distribuer, faire la promo eux-mêmes, mais qui, voilà, produisent et managent et s'occupent peut-être du live. Oui, ça a une raison d'être, quoi. Un label qui entoure, qui conseille et soutient l'artiste, ouais.
Est-ce que tu as déjà une idée de ce à quoi ressemblera 2024? En tout cas, de ce à quoi tu aimerais que ça ressemble, hein.
Là, il y a un album de Neil Oxica qui sort aujourd'hui. Groupe anglo-ougandais.
On a l'impression que ce groupe a été créé pour Crammed, hein, si je puis me permettre. Hein.
Peut-être, ouais. Qui est parti dans une direction plus extrême sur ce disque, je ne sais pas si tu as pu écouter un peu, il prétend être influencé par le heavy metal. Bon, les fans de heavy metal ne vont pas du tout s'y reconnaître, mais il y a un truc très saturé, comme ça, très énervé. Après, il y a un album de Amatorski, qui est un excellent groupe flamand, qui n'a plus sorti d'album depuis 2014, qui sort un nouvel album. Aquaserge fait un nouveau disque, où ils reviennent à quelque chose de plus rock, mais différent d'avant. Carrément, côté plus rock, plus abrasif. Mmh. Et quoi d'autre? Stubbleman, dont je parlais, qui est ce producteur Pascal Gabriel, qui est un Namurois qui a fui la Belgique pour, quand il avait 18 ans et qu'il était punk, qui allait se réfugier à Londres, qui est devenu un producteur important de cette scène électronique de la fin des années 80, puisqu'il a coécrit et coproduit le premier disque de Bomb the Bass, S-Express, enfin, des trucs qui ont été des tubes. Il s'est mis après à travailler beaucoup avec Mute et il a fini par écrire et produire des titres pour Dido, Kylie Minogue, enfin des artistes pop mainstream. Et puis à un moment donné, il a tout arrêté, il est revenu à faire sa propre musique, qui est une espèce d'ambient très éthéré comme ça. Et puis il y a Yasmine Hamdan qui fait un nouvel album aussi, c'est pour la deuxième partie de l'année.
Donc un beau programme.
Ouais.
Cette émission s'appelle. Cette série s'appelle Off the Record. Off the Record, on a expliqué ce qu'on voulait en faire, mais c'est aussi l'expression anglaise de c'est off. Enfin, ouais. Je te le dis, mais c'est un secret. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ta carrière que tu n'aurais jamais dit, que tu pourrais nous confesser aujourd'hui, comme si tu étais. À l'église.
J'ai assassiné 3 artistes en 1987. Non, je sais pas.
Bon, on sait tout de toi aujourd'hui.
Sûrement pas. Sûrement pas.
Eh bien écoute, on se retrouvera dans 7 ans pour les 50 ans de Crammed. Et peut-être D'accord. qu'à ce moment-là, on pourra enfin savoir ce qu'on ne sait pas encore.
Bah, dans 7 ans, c'est bien. J'aurai 80 ans. C'est un chiffre rond.
Comme Mick Jagger.
Voilà.
Merci Marc.
Merci à toi.